la conférence suivante, on reçoit Elekin, un des pionniers du TMP Lab, un hackerspace parisien. Peut-être, je ne sais pas, tu confirmeras ou pas, mais c'est parmi les premiers hackerspace en France et qui maintenant est parti vers d'autres aventures. Il revient tout juste d'Inde. Il va nous parler du projet Neo 900, un projet de smartphone logiciel et matériel libre.
Merci Fred. Bonjour. Ça va être un peu difficile pour moi de présenter en français parce que j'ai plutôt l'habitude de présenter en anglais. Et je reviens d'un mois en Inde, donc je suis un peu... Un mois en Inde où j'étais à Hill Hacks en Himachal Pradesh. C'est un événement, si vous aimez le hack, c'est chaque année dans l'Himalaya, des hackers qui se rencontrent, c'est super. Et je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Neo 900. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont familiers avec ce projet-là déjà? Est-ce que vous connaissez le Nokia N900? Est-ce que vous en avez un? Donc Nokia a lancé ce téléphone avec un clavier en 2009. Ils l'ont un peu marketé en disant c'est un téléphone pour hackers, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hackers qui ont fait pas mal de choses avec. Et c'est devenu la base du projet Neo 900. Donc avant de revenir là-dessus, je vais vous parler un peu de l'historique de la téléphonie libre. Jusqu'en 2006, en fait, il n'y avait pas de téléphone libre. Il n'y en a toujours pas. C'est très marginal. En 2006, il y a quatre ingénieurs qui ont lancé le projet OpenMoCo, Open Mobile Communications. C'était porté par une entreprise de Taïwan qui s'appelle FIC. Ils avaient dans l'idée de faire un téléphone dont le design serait libre, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait faire une copie du hardware et le vendre. Et il s'avérait que c'est très difficile de faire ça. Donc ils ont fait une première version, le Neo 1973, qui était plutôt orienté pour les développeurs. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des Neo? Ouais. Quelle version? FreeRunner. Donc FreeRunner est venu après, en 2007. Donc ils ont fait un hardware qu'ils ont appelé GTA. C'est pas Grand Theft Auto, c'est GSM, Texas Instrument et GPS. C'est-à-dire c'est un peu le noyau de leur choix technique. Donc la première version a été fabriquée par FIC. First International Computer, qui a lancé OpenMoCo Inc., la société qui a porté le projet OpenMoCo pendant quelques années. La seconde version, GTA 02, c'était donc le FreeRunner. Si vous vous souvenez, c'était un truc assez rond, il avait un design assez sympathique. Malheureusement, il avait un processeur graphique assez pourri et du coup, il était très lent. Donc ça, c'était 2008. En 2009, GTA 03 n'est jamais sorti. C'est resté au stade de prototype. Ils ont aussi fait le GTA 04 comme nom de code d'un téléphone qui n'a jamais vu le jour, qui était une version de GTA 02, donc du FreeRunner, avec de la 3G. Sur ce, il y a une boîte allemande qui s'appelle Golden Delicious, du docteur Nicolas Schaller, qui a porté GTA 0, qui a travaillé à partir de GTA 03, mais sur un processeur Texas Instruments un peu plus évolué. Et ils ont lancé en 2010, un produit qu'ils ont appelé GTA 04 Open Phoenix, à base de Texas Instruments OMAP 3530. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la technique, c'est pas très très important. Ils ont réussi à le lancer. Et après ça, il y a eu une espèce de hiatus où Nicolas Schaller s'est dit c'est impossible de le faire, on va jamais arriver au bout. Et je préfère partir sur un autre plan qui est plus de la console de jeu. Donc il a sorti deux trucs, Pyra et Pandora. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Donc le projet était pas très, il restait très très fermé sur des gens très orientés sur la technique, pas très grand public. Ils avaient essayé de faire avec le Freerunner un produit grand public, mais ça n'a pas vraiment marché, justement à cause de la lenteur. Donc en 2010, Jörg Reisenweber a annoncé qu'il lançait un nouveau projet, le Neo 900, à base de GTA 04. L'intérêt du Neo 900, c'était qu'il reprenait le design du Nokia N900. Donc ça veut dire que toute la partie design mécanique était déjà faite et qu'il changeait uniquement le hardware. Ça, c'était la théorie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des prototypes, on est arrivé à une modification de la mécanique pour faire rentrer un modem qui était plus gros. Et aujourd'hui, on en est au prototype V2 qui est en cours de layout. Donc, c'est-à-dire, on a déjà les schémas et on est en phase de préparation du layout pour la production. Alors, il y a un truc intéressant ici, c'est que on parle de hardware libre. Ça veut dire que les schémas sont accessibles à tout le monde, n'importe qui peut le faire. En revanche, le layout, c'est un peu comme si on disait, bon voilà, on fait une voiture et dans cette voiture, on va utiliser tel et tel matériel, etc. Le layout, ça serait la phase où on dit au robot, fabrique ça. Pour l'instant, le layout est secret, ce qui est un peu contradictoire avec du hardware libre. Mais le fait est que quand on est une grosse entreprise comme Samsung, qu'on fait le Samsung Edge S7 avec une batterie trop compressée qui explose, qu'on fait plusieurs millions d'unités et qu'on les rappelle, on peut se permettre de balancer 3 milliards de dollars en disant « Ok, pas de problème, on annule, on refait, on renvoie au marché. » Quand on est une petite entreprise allemande avec un salarié qui est électronicien et qui connaît absolument rien en business, 3 milliards de dollars, c'est loin, loin, loin des budgets. Toute la recherche de Neo 900 est faite par la communauté. La communauté, ça veut dire tous les gens qui ont travaillé sur OpenMoko depuis 2006. Ça veut dire principalement Jörg Reisenweber, qui est en charge du projet, Werner Almesberger, qui est probablement connu des gens qui travaillent sur Linux, qui a fait Lilo, qui a fait InitRD, etc., qui participait aussi à la première équipe d'OpenMoko. Et puis, les quelques personnes qui traînent sur le canal IRC et qui travaillent quand ils peuvent sur le projet. Donc, on a une question d'échelle énorme. Samsung a balancé 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars sur leur S7 Edge pour les histoires de batterie. 3 milliards de dollars, c'est énorme. Qui pense que c'est pas énorme? Bon, eh ben c'est pas énorme parce que ça représente 2% du budget annuel de Samsung. 2%. Donc quand on parle de hardware libre, on parle de gens comme vous et moi qui sont face à des géants qui ont des capacités de géants. Tous les téléphones aujourd'hui, sauf 3, sont des téléphones qui sont conçus pour espionner leurs utilisateurs. Il y a dans le hardware des téléphones une chose qui est incompressible, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas retirer, parce que ça répond à des lois américaines, comme par hasard, concernant le modem. Le modem, c'est une boîte noire qui propose l'accès au réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire accès au GSM, accès au Wi-Fi, accès au Bluetooth, etc. Tout ça, c'est dans une même boîte qu'on appelle Baseband Processor. Il y a à peu près 10 entreprises au monde qui sont habilitées à produire ces chipsets. C'est tous des chipsets propriétaires. On appelle ça des chipsets parce que c'est peut-être des chips, mais c'est peut-être des sets de chips. On ne sait pas parce que c'est secret. Les seuls qui savent, c'est la FCC, Federal Communications Commission des États-Unis, qui, eux, proposent les standards et disent, voilà, si vous voulez être sur le marché des téléphones, vous devez vous plier à ces règles. Parmi les règles de la FCC pour les GSM, il y a une partie secrète. Donc, je disais, il y a trois téléphones qui sont pas des téléphones espions. Je vais revenir là-dessus. Mais il faut garder en tête qu'on est dans une économie où il y a 10 entreprises qui travaillent en secret et en concurrence pour fabriquer tous les modems du monde, tous les téléphones mobiles. Après les révélations de Snowden, évidemment, on sait que certaines entités gouvernementales et paragouvernementales savent accéder aux téléphones portables et non seulement aux modems, mais aussi aux caméras, aux senseurs, aux capteurs, pardon, et à d'autres, au GPS, etc. Donc ces trois téléphones, c'est la concurrence, c'est disons le marché de Neo 900. Il y en a trois. Donc il y a Neo 900, je reviendrai sur les caractéristiques techniques de Neo. Il y a le Cryptophone 500, qui est à base de Samsung S3. L'approche de Cryptophone, qui est une entreprise allemande dont les fondateurs font partie du Chaos Computer Club. Donc on peut leur laisser le bénéfice du doute quant à l'intention. L'approche du Cryptophone 500, c'est de dire, voilà, on choisit un modèle de téléphone, on connaît son hardware, on sait quel chipset ils utilisent pour le modem, et on va l'attaquer et voir ce qu'il fait. Donc ils ont fait du reverse engineering sur le chipset, sur le modem, sur le baseband processor, et ils ont déterminé tous les signaux entrant et sortant, et ils ont fait un firewall autour. Donc c'est software, c'est une solution logicielle aux attaques possibles à partir des modems. Si certains d'entre vous sont perdus à partir du baseband, modem, pourquoi c'est important, etc., levez la main, je donne une petite couche dessus. Personne ? C'est de quoi on parle. Ok. Donc, dans les révélations de Snowden, on sait que certaines agences sont capables, à partir de software, d'infecter des systèmes, et à partir de ces infections logicielles, peuvent activer des fonctionnalités des téléphones. Par exemple, la caméra ou le microphone, même si le système est éteint, théoriquement éteint. On ne sait pas exactement si le modem lui-même comporte des backdoors, mais on peut s'en douter du simple fait qu'on ne sait pas comment ça marche et que, étant donné l'étendue des révélations, moi j'appelle ça l'apocalypse selon Snowden, c'est vraiment ça. Pendant 20 ans, tous les hackers se disaient « Ouais, non, faut vraiment faire gaffe, on est surveillé, etc. » Et tout le monde nous disait « Ouais, non, t'es vraiment parano. » Et puis tout à coup, on a des milliers de documents qui disent « Ah ben non, finalement, on n'est pas parano, on est réaliste. » Donc on ne sait pas si le modem est attaqué directement ou pas. Et franchement, on s'en fout. Les trois approches à cette problématique-là, c'est l'approche de Cryptophone, software. On entoure le modem d'un firewall, d'un mur de feu, et on prie pour qu'on ait bien analysé tous les signaux. La seconde approche est une approche un peu plus industrielle. C'est l'approche de Bulle. Bulle, la fameuse entreprise française dont on a largement vanté le ridicule au cours des ans. Et ben, figurez-vous que Bulle, aujourd'hui, fabrique un des téléphones les plus sécurisés au monde, qui s'appelle le Hoax M2.
Voilà, la première version s'appelait le Globule.
Ah bah écoute, Ça, je savais pas. Donc, dans la partie questions-réponses, j'espère bien que tu vas nous faire une grosse tartine sur ce truc-là. Donc, l'approche du Hooksem2, c'est une approche validée par l'OTAN, donc l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, que Trump a annoncé comme étant morte. Ça serait bien. Donc l'approche, c'est d'utiliser un processeur de cryptographie spécifique, secret, parce que dans ces mondes-là, le logiciel libre n'est pas encore, et la transparence n'est pas encore vraiment connue. La sécurité se fait par l'obscurité. Le Hooksem2 donc, utilise un coprocesseur cryptographique qui fait que toutes les données qui sont accessibles au modem sont chiffrés. Donc c'est leur approche pour dire on ne sait pas ce que fait le modem, mais au moins ça, ils pourront pas le déchiffrer. C'est validé par l'OTAN, c'est des choses qui sont utilisées par des grosses entreprises et par les militaires occidentaux. C'est très cher, c'est propriétaire, on ne sait pas comment ça marche, et c'est la deuxième solution, la deuxième approche. L'approche des Neo 900 est un peu différente, elle n'est pas logicielle, elle n'utilise pas une cabriole pour chiffrer et dire qu'on va balancer des données chiffrées au modem. Elle dit, on va isoler le modem physiquement sur le circuit imprimé. Le modem ne va pas avoir accès à l'électricité, au capteur, à la caméra, etc., au microphone. Et on va ajouter quelques fonctionnalités, comme par exemple la surveillance l'activation de l'électricité, la surveillance de l'antenne, etc. Il faut savoir que une cellule du réseau GSM peut contacter un appareil et lui dire « envoie-moi telle donnée ou envoie-moi tel signal ». Avec le Neo, si vous n'êtes pas en communication, parce que on n'est pas foolproof, si vous n'êtes pas en communication, le signal peut être envoyé par la cellule, mais à ce moment-là, le modem va recevoir le signal et va devoir répondre avec une consommation électrique. Cette consommation électrique, comme le modem n'est pas connecté au power, il va devoir la demander au CPU. Je vais aller regarder mes slides. La mémoire est séparée. Ah oui, il n'y a pas de téléphonie stack sur le CPU. Il n'y a pas d'accès direct au capteur. Il y a surveillance du courant, surveillance de l'antenne, le power switch est contrôlé par le CPU, et il y a GPS et RFKill. Ça, c'est les caractéristiques spécifiques du Neo. En termes de matériel, il y a des améliorations par rapport au GTA 04 et par rapport au N900, qui sont de l'ordre de 4 fois plus de mémoire, 2 fois plus de vitesse de CPU, etc. C'est des choses qui correspondent à des téléphones, je dirais, qui ont 2-3 ans ou 3-4 ans. L'idée de Neo 900, c'est vraiment pas de faire un téléphone dernier cri, c'est de faire un téléphone qui protège la vie privée. Mais plus avant, c'est de démontrer qu'il est possible de créer un téléphone libre qui puisse ouvrir la voie à d'autres téléphones, à d'autres smartphones plus puissants. C'est-à-dire de prolonger le projet OpenMoCo qui a démarré en 2006, ça fait 11 ans maintenant, et on n'a toujours pas de téléphone grand public libre. Et on est toujours coincé dans un système de la technologie arrive dans un paquet avec un beau design et on ne sait pas quoi en faire, sinon appuyer sur le bouton on et appuyer sur le bouton off. Je ne sais pas comment vous sentez d'avoir un ordinateur en permanence sur vous qui vous localise et qui est contrôlé à distance, mais moi, ça me gèle. Donc il y a un aspect fort de la communauté. Récemment, le docteur Nicolas Schaller a lancé la production, une série de productions du Pyra, donc c'est une espèce de console qui a à peu près les mêmes caractéristiques matérielles que le Neo, notamment un Texas Instruments OMAP 3730 qui est soudé sur la carte mère. et la production a foiré. Donc on s'est retrouvé dans une situation où un tiers de la production était valide et les deux tiers étaient invalides. Si vous êtes Samsung, c'est pas grave. Si vous êtes Golden Delicious, c'est vraiment difficile de s'en sortir. Et donc il a annoncé que le Neo 900 serait condamné parce qu'il y avait exactement la même problématique physique. Ce qui est absolument vrai. Alors pourquoi je l'annonce comme ça en disant le projet est mort ? C'est parce qu'il n'est pas vraiment mort, c'est que pour l'instant, on est au prototype version 2 qui laisse justement, parce que Jörg étant un ingénieur électronicien de haut vol, il a anticipé cette problématique et le prototype V2 pose le CPU à l'extérieur du circuit. Donc tout le reste du téléphone est conçu et le CPU est dérivé sur une BeagleBoard XM qui a exactement la même conformation de CPU. Donc pour l'instant, ça ne concerne pas Neo 900. Alors évidemment, en coulisses, qu'est-ce qui se passe ? On est un peu inquiet de voir que peut-être que ça va foirer. Et on ne peut pas se permettre que ça foire parce qu'il y a 4 ans de travail, il y a des salaires, il y a tout un investissement, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain de l'annonce de la problématique de chaleur, on a reçu des mails de la communauté qui disait « Ah, mais on peut tracer les gens qui ont participé à la production du N9, le N9 qui a la même conformation de soudure, pour récupérer les profils de gravure du hardware. » Donc on est rentré en contact avec des gens en Finlande qui ont bossé pour Nokia sur le N9 pour vérifier les circuits et trouver le moyen de les fabriquer. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent sur des mois et des mois. D'ailleurs, en parlant de temps, le projet OpenMoco, en général, a eu toujours des délais. Voilà, c'est un peu comme Windows. Windows 95 est sorti en 98, Windows 98 en 2000, etc. Donc oui, quand on est une petite boîte, on fait les choses plus lentement. Mais on les fait mieux, parce qu'on n'a pas le choix, il faut que ça marche. Et effectivement, c'est le code est disponible, tout est disponible. Donc si vous êtes électronicien, vous pouvez aller consulter les schémas, vous pouvez voir ce que vous pouvez en faire, etc. Le seul truc qui manque pour l'instant, c'est le layout. Pour la raison simple que si un copycat chinois qui dispose d'une usine se met à prendre les schémas et à les sortir, on ne rentre pas dans notre investissement. Je dis notre, je représente Neo 900, mais je ne fais pas partie des salariés. C'est plus une histoire de communauté. Il faut savoir aussi, au niveau logiciel, le Neo 900... contrairement à ses prédécesseurs d'OpenMoco, n'a pas été fabriqué initialement avec du logiciel libre. Mais c'est chose faite. Avant, il utilisait Eagle pour faire les schémas. Tous les schémas ont été convertis sur KiCad. Et aujourd'hui, l'ensemble du projet est fait sur du logiciel libre, depuis les serveurs jusqu'au logiciel de fabrication, de design et de fabrication. Donc historiquement, OpenMoco utilise MIMO, qui est en fait l'OS basé sur Linux qui a été lancé par Nokia avant que Microsoft fasse du forcing qui se retourne comme des crêpes. Et MIMO donc est devenu un système promu par une communauté d'amateurs. Et ces amateurs, ils se sont retrouvés sans upstream. C'est-à-dire qu'ils avaient leur logiciel dans les versions publiées et impossible d'aller chercher des nouvelles versions parce qu'elles n'existaient pas. Et les dépôts qui étaient auparavant fournis par Nokia, sûrement dans une clause contractuelle avec Microsoft, ont disparu. Et du coup, les mises à jour des systèmes MAEMO étaient un peu branlantes pendant des années, jusqu'à ce que récemment, on fasse un pont entre la communauté de Devuan et la communauté de MAEMO pour rétablir un upstream viable pour MAEMO. Donc en ce moment, et depuis quelques mois, Freeman Gordon, qui est un des grands promoteurs de MAEMO, porte tous les logiciels de MAEMO sur Devuan. Donc Devuan, c'est un fork de Debian qui n'utilise pas systemd, qui est resté avec le sysvinit de Debian Squeeze. Et donc ça, c'est un travail en cours qui va se finaliser une fois que la couche GTK2 sera complètement portée. Donc ça peut être des semaines, des mois, on verra bien. Mais le fait est que maintenant, le N900, donc si vous avez des Nokia N900 pour l'instant, vous pourrez très bientôt mettre à jour les logiciels. Et donc ce sera suivi normalement comme n'importe quel distro GNU Linux normal. Je connais pas de projet sur Android ou sur réplicant. Il n'y a pas de projet de porter Neo 900 sur réplicant ou de porter réplicant sur Neo 900. Mais ça pourrait venir. Le problème de réplicant, c'est de... Est-ce que vous êtes familier avec réplicant? Pas trop, hein. Donc, réplicant, c'est le projet d'une personne pour déblober Android, pour faire d'Android du logiciel libre. Parce que Google Android n'est pas du logiciel libre, faut le savoir. Et donc, c'est le travail d'une seule personne, en fait. Paul Rallonge, Paul K. Donc pour l'instant, il a pas de plan pour porter réplicant sur Neo 900, mais c'est pas impossible que dans un futur proche, ce soit envisageable. C'est-à-dire à partir du moment où il y a du financement, je pense qu'il peut s'y intéresser. Mais pour l'instant, c'est pas très intéressant parce que Neo 900 n'existe pas encore, etc. Mais pour les possesseurs de N900, c'est déjà possible d'utiliser Devuan. Enfin, MAEMO à base de Devuan, c'est encore relativement artisanal, mais voilà. Dès que le port GTK2 est fini, ça sera une histoire de apt-get update et apt-get upgrade. Le projet Neo 900 en lui-même ne vient pas avec un OS parce que c'est un projet de hardware. Donc il y aura que le choix des OS, Debian, MAEMO ou d'autres choses. Il y a évidemment un enjeu de liberté. Si on est tous tributaires d'un appareil qui est chargé de nous surveiller, de surveiller absolument toutes nos actions localisées, temporisées, relationnées dans le sens de savoir qui parle avec qui, etc. On sait ce qu'on peut faire avec des métadonnées. Il y a un problème très grave de société. Il y a un aspect de pérennité qui est que si le design est libre, ça veut dire que on n'est pas à la merci de la banqueroute d'une compagnie. On peut continuer le projet de la même manière que OpenMoko Inc. A laissé la place à Golden Delicious. Et que Golden Delicious est parti dans un autre sens que Neo 900. C'est un aspect d'infrastructure qui devrait que quand on est libriste on le comprend, mais c'est très difficile de faire passer le message. Je sais pas si vous étiez là à la conférence de Pouillou quand il a montré les grands sourires du PDG de Microsoft et de la ministre de l'Éducation qui signait un contrat de 15 millions d'euros pour filer des logiciels Microsoft à nos enfants. Le jour où Microsoft décide de plus fournir les logiciels, vous me direz, bah non, ça peut pas arriver, too big to fail, tout ça. Moi, j'y crois pas trop. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans le même camp que l'Europe, mais est-ce que ça va durer? Donc, il y a un aspect de pérennité comme ça qui est compréhensible dans le logiciel, mais qui est encore plus prégnant dans le matériel. C'est que si on sait faire un vélo et reproduire un vélo, ben, très facilement, tout le monde pourra avoir un vélo. Maintenant, si on ne sait pas, on va devoir faire du stop. Ah non, on ne peut plus faire du stop. Ben non, il y a Blablacar. Ça a été monétisé. Qu'est-ce qui arrive quand tout est monétisé et que la technologie ne reste que dans les magasins et emballée avec un mode d'emploi qui ne sert à rien parce qu'il a été traduit du chinois par un type qui a autre chose à faire dans sa vie que de traduire comment opérer un appareil et qui de toute façon sait que personne va lire son manuel. On est dans une situation où la technologie est bien plus sociale qu'on ne le croit. Sans mentionner... on va les mentionner. Vous connaissez Fairphone ? Fairphone, c'est un projet super. J'ai des potes qui bossent là-bas, alors... Je les aime bien, mais leur truc, c'est on fait un circuit économique où on garantit que les métaux qui sont utilisés dans le téléphone ne seront pas issus de la guerre. Parce que, par exemple, le coltan, c'est un métal qui principalement vient du Congo et principalement de travailleurs esclaves qui ont en général 6 mois d'espérance de vie dans une mine de coltan. Et qui sont généralement dealés par des gens qui échangent le coltan contre des armes, parce que c'est plus pratique d'avoir des armes, tu vois. Toi, tu creuses, et puis moi, j'ai l'arme chargée. Des enfants, oui, aussi. Oui, les enfants passent plus facilement dans les trous, c'est vrai. Cela dit, au 19e siècle, en France, on avait aussi des enfants qui allaient... creuser dans les mines de charbon parce qu'ils passaient plus facilement dans les trous. Donc Fairphone dit qu'ils garantissent la propreté de leur circuit économique. En revanche, ils ne limitent pas l'extraction des matières premières et ils ne facilitent pas plus le recyclage que ça. Contrairement à Neo 900, qui récupère un design déjà existant et qui utilise, et alors ça c'est encore une autre caractéristique d'une petite boîte de hardware par rapport à une grosse boîte de hardware, qui utilise beaucoup de composants qui sont en fin de vie, EOL, end of life, ou qualifiés de not for new design, pas pour des nouveaux designs. Ça, c'est un truc en électronique. Est-ce qu'il y a des électroniciens là, qui ont envie de partager leur frustration Builds of Materials? Non, il n'y a pas d'électroniciens dans la salle? Oh, c'est dommage. Si, un. Tu connais un peu la problématique, non? Donc, en gros, tu as... les logiciels de design, tu leur files, tu fais ton circuit, donc tu mets tes résistances là, tes potentiomètres, tes machins, tes condensateurs, et puis tu appuies sur un bouton Bill of Materials, et il va te sortir une liste de matériaux que tu vas pouvoir commander, en fait, de composants, que tu vas pouvoir commander. Le problème, c'est que toutes les références diffèrent d'un vendeur à l'autre. Donc c'est une espèce de casse-tête où il n'y a pas du tout de standardisation, c'est très difficile de s'y retrouver. Et alors quand tu utilises des produits qui sont end of life, Ça veut dire qu'il faut que tu récupères des stocks d'un vendu pour fabriquer ton truc. Ça veut dire aussi que nécessairement, ton produit ne va pas être à grande échelle. Tu peux pas dire, ben, on va faire 2 millions de Neo 900 parce que de toute façon, il n'y a pas 2 millions de composants N pour faire le truc. Alors évidemment, on pourrait dire, oh, ben, on va utiliser la même chose qui vient de sortir, machin, etc. Non, c'est pas possible parce que c'est de l'électronique, c'est pas du logiciel. On peut pas changer un composant, refactoriser comme ça aussi facilement. On travaille avec du métal. Et d'ailleurs, une des difficultés du projet, c'est de récupérer ces trucs-là. Alors vous pourriez dire, ouais, mais moi j'ai un N900, je pourrais le filer au projet. Mais s'il y a 15 000 personnes, juste 1000 personnes qui disent, ok, moi j'ai mon N900 et j'aimerais bien le transformer en Neo 900, je vous l'envoie. Ben non, parce que ça fait des frais de traitement de poste et de choses comme ça qui balanceraient le prix de production au plafond et personne n'en voudrait. Il y a une autre solution, c'est si tu as un N900, tu récupères juste le hardware dans un kit, on t'envoie le hardware, tu prends un tournevis, tu ouvres ton truc, tu remplaces tes composants, et là, ça s'appelle Neon Board, et c'est le Naked Neon 900. Donc c'est la version pour les hackers. Tu prends ton N900 et tu le démontes et tu remplaces. Ça sera possible. Mais dans l'autre sens, c'est pas possible. Et alors pour sourcer, ça veut dire aller chercher des stocks de matériaux. Et pour sourcer des Nokia N900 dans un bon état, etc., c'est galère. Pour l'instant, on a à peu près 250 N900 stocks et on a besoin de 800. Et on a des gens en Chine qui grattent, qui cherchent des lots, etc. C'est très, très difficile. Toutes ces problématiques-là, Samsung, ils n'ont pas. Apple, ils n'ont pas. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est dans des histoires d'échelle complètement asymétriques. Prenez l'exemple de Israël-Palestine. Pour $1 million, les Palestiniens envoient 1000 roquettes à $1000 chacune. Chaque roquette est arrêtée par un missile Patriot américain qui vaut $1 million pièce. Il n'y a pas de lutte. C'est pas possible. Quand on parle de David et Goliath, la pierre contre l'armure, etc., c'est vraiment ça. On est dans cet ordre de grandeur-là où on a des entreprises qui sont capables, comme Samsung, de lâcher $3 milliards parce que ça représente 2% de leur budget annuel. Non, on ne sait pas faire ça. Ce qu'on sait faire, c'est aller dans des hackerspace, parler à des gens et convaincre des gens que c'est possible de le faire et que si on le fait, on arrivera à une génération de production qui permettra d'arriver à une autre génération de production qui permettra, etc., etc. Est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est pas viable? Personnellement, je crois que c'est pas viable. Mais je crois que c'est nécessaire. Parce que si on le fait pas, eh ben, on n'aura que des Samsung, que des Apple, que des Google qui nous balanceront des trucs dont on n'aura aucun contrôle. Aucun contrôle. Et ces corporations-là, elles ont des lobbyistes. Moi, je vais à Bruxelles, j'envoie des lobbyistes. C'est hallucinant ce qu'ils boivent comme bière. Mais alors, les règles de l'éthique, de la déontologie, ça atteint pas les cafés. Donc c'est des gens qui arrivent avec des millions et des millions et des millions d'euros et qui disent à un type qui n'en a absolument rien à foutre, moi j'aimerais bien que tu fasses ça parce que ça rangerait ma boîte. Tu reprends une bière ? On est dans ce genre de choses. Pour prendre un autre exemple, je recevais un membre de la Commission européenne à dîner. C'est pas le genre de personne que je côtoie tous les jours. Et on commence à parler de logiciels libres et de financement du logiciel libre, etc., etc. Et il me dit, mais nous, on a un gros problème, c'est que on balance des programmes, on essaye de faire des programmes qui encouragent le partage, etc. Et on a des boîtes qui sont spécialisées dans la réponse aux propositions de financement européen, qui nous balancent des dossiers qui passent, qui passe 3 ans, je sais pas, 5 millions d'euros, 20 millions d'euros, etc. Et au bout des 3 ans, on a un logiciel propriétaire, pas financé, plus financé. Et donc, on est obligé de refaire le truc. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de règle, sauf en Slovénie, qui dit argent public, logiciel libre. Argent public, technologie publique. Ça n'existe pas. On est vraiment dans une situation où des banques créent de l'argent par l'intermédiaire de prêts à des boîtes qui leur disent « On a un marché de 20 millions d'utilisateurs, on se fait 1 euro par utilisateur, donne-nous 10 millions. » Et les banques disent « Ok, voilà 10 millions. » Si chacun d'entre nous va dans une banque et dit « Ben, j'aimerais un prêt de 1 000 euros pour contribuer à Neo 900 pour s'assurer que le projet fonctionne », je suis sûr que 99% n'obtiendraient pas les 1 000 euros. On est dans des économies d'échelle qui sont vraiment à notre désavantage. Alors, comment on fait? Je vous pose la question. Je laisse réfléchir un peu et je vais essayer de me rappeler de ce que mon ordinateur n'a pas voulu me laisser lire tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a d'autres points intéressants. Neo 900 a commencé par un crowdfunding de, si je me souviens bien, 70 000 euros. 70 000 euros pour un projet de hardware, ça va pas très loin. C'est une bonne question et je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. En revanche, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a quelques mois, Edward Snowden et Bunny Wang, ont lancé un projet pour pallier à cette histoire d'attaque systématique des téléphones. Ils se sont dit, voilà, notre idée, c'est de faire un morceau de hardware que tu plugues sur ton téléphone, pardon, que tu plugues sur ton iPhone pour que ton iPhone te dise quand c'est trop tard que ton antenne a été utilisée pour te localiser sans ton assentiment. Donc en gros, tu as ton téléphone qui vibre dans ta poche et tu regardes et ça te dit tiens, il y a un truc qui a essayé de te localiser. Alors si tu es une journaliste anglaise en Syrie qui est passée à Homs comme ça un peu à l'arrache, et que tu reçois ce genre de signal, il te reste à peu près 3 secondes avant l'explosion du missile qui t'a été lancé. Donc je ne sais pas si ça sert à grand chose. Si elle l'avait eu, elle aurait su qu'elle allait mourir, mais elle ne l'a pas eu, parce que la technologie n'existait pas. Il y a une autre problématique, outre le fait que ça utilise un iPhone, pour N raisons qu'on pourra peut-être développer. Une autre raison pour laquelle j'étais assez choqué de cette approche-là, le fait, j'ai ouvert la parenthèse, faut peut-être fermer la parenthèse pour que ça revienne. Le fait que c'est un iPhone, pourquoi? Leur idée, c'est faut utiliser un téléphone qui soit largement diffusé, comme ça fait moins de travail pour beaucoup plus d'unités touchées. Le problème, c'est que il faut modifier physiquement l'iPhone, la prise, je sais pas quoi, USB, USD, non, c'est la SIM card, c'est la prise de la SIM card, la modifier physiquement pour accueillir cette espèce d'électronique qui permet d'avoir un circuit extérieur qui surveille l'électronique de l'iPhone. La problématique, c'est que tu as 2 solutions pour le faire. Soit tu vas à Shenzhen dans un magasin et tu le fais sur place, soit tu te le fais livrer. Et si tu te le fais livrer, il y a des chances que tu rentres dans les circuits de la NSA qui détournent les packages. Parce que bon, pourquoi tu irais faire modifier un iPhone à Shenzhen pour accueillir un dispositif anti-surveillance. Donc je sais pas, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est pas très probable en réalité. Donc effectivement, si tu as accès à Shenzhen, tu peux aller en Chine, tu vas avec ton iPhone, tu vas au magasin, tu regardes le mec faire la modification devant toi, tu la testes et tu repars avec. Il y a des chances que ce soit probable. Mais pour la plupart des gens, ça va passer par FedEx ou quoi. Et tous les gens qui ont ce genre d'intérêt à lancer, à modifier un téléphone de cette manière-là, seront déjà sur une liste de surveillance, etc.
Est-ce que justement, c'est pas un peu futile d'essayer de se cacher sur un réseau qui lui-même est propriétaire? C'est-à-dire quand on se connecte au GSM, au 3G, on va se connecter à une station de base, une BSS, on va transmettre son numéro d'IMEI, on va transmettre une localisation approximative avec le MCC, le MSN, et finalement le réseau lui-même est propriétaire et le réseau lui-même peut nous espionner. Donc est-ce que c'est peut-être pas futile d'essayer de se cacher en plein jour, quoi?
Je pense que c'est tout à fait futile. Personnellement, ce que j'aimerais, c'est un appareil qui soit connecté à Internet, mais qui n'utilise pas le réseau GSM. Parce qu'on sait faire, d'autres choses, du Bluetooth, de la radio, du Wi-Fi, ce que tu veux. Pourquoi on aurait besoin, au XXIe siècle, en 2017, de passer par un réseau qui est complètement pourri jusqu'à la moelle, qui n'est pas sécurisé, et qui n'a jamais été sécurisé, qui n'a pas été conçu pour être sécurisé? Alors, pour ceux qui n'ont rien à cacher, moi, ce que j'aime bien dans « j'ai rien à cacher », c'est... Alors, cette anecdote qui m'est arrivée en Argentine. Donc, j'étais à Buenos Aires et je rencontre un type dans un club. Et on commence à parler et je lui dis, bah, moi, je travaille sur l'amélioration de la vie privée, la protection de la vie privée, etc. Et il dit, ah ouais, c'est cool et tout. Et puis, trois semaines après, je le recroise au club et il me fait, oh, regarde, j'ai fait une carte avec tous les endroits où je vais, etc. Regarde, là, c'est ta maison. Voilà. Donc le problème, c'est pas de comment toi tu te comportes par rapport à un système technologique qui est de toute façon complètement biaisé et largement à ton encontre. C'est le reste, les autres, tu vois. L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Et c'est pas uniquement les gens. Enfin, tu vois, tu passes. Là, je suis sur caméra. Tu passes dans le métro, t'es sur caméra. Tu traverses la rue, t'es sur caméra. Tu rentres dans un magasin. Tu sais même pas ce qui se passe avec tes données. Tu passes un portail de sécurité à l'aéroport. Tu sonnes comme un sapin de Noël. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui sonnent pas comme des sapins de Noël? Si t'as pas de téléphone, t'as pas de carte de crédit, t'as grillé ta chip de passeport sur plaque à induction, ça laisse pas de traces. Vous avez entendu ça? Je le répète. La tactique normale, classique, traditionnelle de griller les puces de passeport, c'est de les passer au micro-ondes. Le problème du micro-ondes, c'est que ça brûle le papier, etc. Ça laisse des traces visibles. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des gens qui ont été un peu plus malins, qui ont poussé un peu l'expérimentation, qui ont essayé les plaques à induction. Ça laisse pas de traces. Yes. Ça revient de Hill Hacks. Où j'étais, donc là c'est du 15 au 31 mai, donc c'est maintenant, en Inde, et ça vient de là, cette info. On peut se faire une cooking party si vous voulez. mais effectivement, oui, on a un super problème de voilà, quand tu sors, ok. Admettons que tu es un citoyen lambda, tu fais tes achats par carte de crédit, etc. Tu passes à l'aéroport. L'aéroport, il a des lecteurs RFID, il a des lecteurs de n'importe quoi, de toute façon. Et donc, tu passes, traverses la ligne jaune, hop, pouf, t'apparaît, t'as une signature électronique. La signature électronique, elle comprend ton passeport, ta carte de crédit, ta carte de métro, ta carte de bibliothèque universitaire, le RFID dans tes chaussures, le RFID dans ton jean, le RFID dans ta chemise, le RFID dans tout ce que t'as acheté par carte de crédit. Qui est tout lié à ta carte de crédit. Si t'as pas de carte de crédit, t'es moins visible. Mais bon. Donc, pouf, tu sonnes comme ça. Pouf, super. Maintenant, admettons, t'as tout acheté de seconde main, t'as tout passé à la plaque à induction, t'as fait ça bien propre. Tu passes, et vous là-bas. Qu'est-ce qui se passe quand 99% de la population passe un portique de sécurité et apparaît comme un sapin de Noël? Et qu'il y a 1% de la population qui sonne pas, qui n'émet aucune signature. On est dans la merde, les 1%. Alors, pour ça, j'avais une proposition qui était de faire une base de données de signature électronique qu'on puisse partager en ligne. Donc, pour ça, il faudrait faire un petit portail de lecteurs où chacun passerait, comme ça on pourrait mettre ça à l'entrée du THSF par exemple, hop, on passe, boum, toutes les signatures sont enregistrées, sont balancées sur une base de données, et puis après, tu pourrais éliminer tous tes tags et acquérir cette signature pour que quand tu passes, boum, tu sois Barzi qui passe à Hong Kong, et puis à New York, et puis à Paris en même temps. Là, il y a peut-être moyen de faire tourner la roue, la surveillance. Mais en ce qui concerne les téléphones, j'ai pas trop d'espoir. Alors, si on arrive à mener ce projet à bout et sortir peut-être 1000 unités de Neo 900, peut-être que on aura motivé des ingénieurs à faire un autre smartphone. Peut-être qu'on aura motivé une boîte obscure de Taïwan à investir un peu là-dedans et pour faire des smartphones un peu plus grand public. Peut-être que Fairphone se diront « Ah ouais, c'est pas con finalement, maintenant qu'on a la traçabilité des composants, etc. » On peut peut-être aller plus loin et pousser la production. Peut-être que on va avoir des institutions citoyennes qui vont se dire ah ben maintenant ça vaut le coup d'aller voir les institutions européennes et dire bah regardez prenez ce téléphone, vous allez voir, ça va changer votre vie, vous allez plus avoir des journalistes qui vous harcèlent parce qu'ils savent où ils sont, où vous êtes avant que vous le communiquiez à quiconque, ou des services secrets qui savent tout de vous. Peut-être qu'on aura une technologie où on pourra dire ah ben non, mon téléphone, il n'utilise pas le GSM. Peut-être qu'on pourra avoir une technologie qui dira ben en fait, quand je partage des fichiers avec mon voisin, mon opérateur, il ne le sait pas. Ou quand je suis dans une salle, je peux passer des appels à mes potes qui sont dans la salle d'à côté sans avoir à passer par une cellule GSM. Peut-être qu'on pourra réfléchir à une technologie qu'on pourra inventer nous-mêmes. Et pas laisser ça à des gens pleins de cocaïne dans des bureaux new-yorkais ou de la Silicon Valley qui ont absolument aucune idée de comment vivent des Africains ou des Indiens ou des gens qui sont dotés d'une bienveillance éternelle, qui ne sont pas stressés parce qu'ils ont des pressions de technologie qui ne correspondent pas à leurs attentes. J'espère qu'on arrivera à un monde où les hackers pourront s'éclater et aller voir leur père et dire « Ouais, j'ai cette idée, j'ai envie de la faire. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire un crowdfunding de 100 millions d'euros pour le faire ?» Alors, est-ce qu'on a besoin de 100 millions d'euros pour faire du hardware ? Je crois qu'on a besoin au moins de quelques millions d'euros, c'est sûr. Maintenant, ce que j'ai vu sur Neo 900, c'est qu'à partir de 70 000 euros, on a pu envisager de faire un peu moins de 1000 unités d'un téléphone qui protège réellement la vie privée de ceux qui le portent. Sauf qu'évidemment, il ne protège pas contre le passage du portique. Donc, est-ce qu'il y a aussi moyen ? L'Axar à Bordeaux, Gênes. Et je crois que le conducteur n'est pas dans cette salle, ce qui indique quelque chose sur sa localisation. Les métadonnées sont folles. Bref, plus je passe de temps avec les machines, plus j'ai envie de passer du temps avec les humains. Et plus je passe du temps avec les humains, et plus j'ai envie de leur dire arrêtez d'utiliser de la technologie que vous n'avez pas conçue. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait, et surtout, vous ne savez pas ce qu'elle vous fait. Je crois que c'est vraiment ça le message de Neo 900. Bon, allez, je vais être un peu plus précis. C'est plutôt ça, mon message. Si Jörg m'entendait dire le message de Neo 900, ça serait limité à... le vrai successeur du N900 est un téléphone qui protège la vie privée. Mais mon message, c'est plutôt que si on n'est pas capable de faire notre propre technologie, il y en a d'autres qui la font pour nous. Si on n'est pas capable de faire notre propre politique, il y en a d'autres qui la font pour nous. Si on n'est pas capable de faire notre propre bouffe, il y en a d'autres qui la font pour nous. Généralement, c'est bien, mais souvent, c'est mieux de la faire soi-même. Et j'aimerais beaucoup continuer cette conversation parce que je pense que c'est une conversation qui n'a pas suffisamment lieu dans le hackerspace. J'avais encore une discussion plutôt sur la différence entre un hackerspace et un Fab Lab, etc. Je vous renvoie à Maxigas sur la différence entre un Hack Lab, un hackerspace, un Fab Lab et tout ça. Il y a un aspect social, c'est-à-dire que faut comprendre, à partir du moment où on comprend la technologie comme technique appliquée à la société, on sort de la technique pour elle-même et on rentre dans ce que Simondon appelait le transindividuel, où la technologie n'est pas un objet, un appareil technologique n'est pas un objet, c'est une relation. C'est une relation entre un humain ou des humains et des machines. Et je crois qu'on est dans cette phase d'hybridation de l'humain et de la machine qui passe nécessairement par une question sociale et politique. Voilà. Et j'aimerais que ce genre de discussion dans les hackerspace soit un peu plus présente, parce que si on se contente d'imprimer des figurines de Star Wars sur des imprimantes 3D, on est mal barré. Voilà. On va se prendre une bière ?